Au Capi Service, du lundi au vendredi, avec Jody Daniel Cachama.
Bien, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service. Merci d'applaudir très très fort. Okapi Service, émission spéciale femmes. Nous sommes en direct du Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale à l'occasion de la clôture du mois dédié à la femme. Applaudissez très 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 fort. Tonnerre d'applaudissements! Merci d'être venu participer à ce programme. Les échanges de tout à l'heure vont porter sur les droits, l'égalité et l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Particulièrement, nous allons parler de l'éducation. On va parler en particulier de l'éducation de la jeune fille. Les invités sur ce plateau, nous avons le professeur Espérance Baedila de l'UNICIC. Merci de l'encourager. Merci de l'applaudir très très fort. Nous avons Madame Anne-Sophie Nzuzi Odia. Merci de l'encourager par vos applaudissements. Et merci à toute l'équipe de production FM et vidéo de Radio Okapi, sans oublier l'équipe des stagiaires de Radio Okapi. Et merci à l'équipe du Centre culturel. Et merci à vous qui êtes là dans cette salle et à tous ceux qui nous suivent en RDC à travers le monde. Bienvenue et applaudissez pour vous-même.
Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Bien, nous allons démarrer cette émission en parlant de l'éducation de la jeune fille, qui est un levier d'autonomisation et de développement. Au fait, la situation éducative des filles en RDC reste préoccupante. Selon l'enquête démographique et de santé 3 et des RDC 3 2023-2024, seulement 59% des femmes âgées de 15 à 49 ans sont alphabétisées, comparativement à 86% des hommes, soulignant une forte disparité des genres dans l'accès à l'éducation. Par ailleurs, entre 30 et 40% des filles abandonnent leur scolarité après le primaire à cause principalement de la pauvreté, du manque d'infrastructures scolaires adéquates, des mariages et grossesses précoces, etc. Il y a plusieurs raisons. Et pourtant, éduquer une fille, c'est lui offrir des perspectives et lui donner les moyens d'accéder à l'indépendance économique. Alors, comment faire de l'éducation des filles un levier d'autonomisation et de développement de la jeune fille? Voilà la grande question qui va autour de laquelle nous allons discuter avec nos invités. Professeur Baedila, vous pouvez prendre votre micro. Madame Anne-Sophie également. Madame Espérance, professeur, encore une fois bonjour et ravi de vous avoir aujourd'hui dans cette émission.
Merci également.
Bien, je rappelle que vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication à l'UNICIC, qui est l'université des sciences de l'information et de la communication. Alors, la première chose est de savoir quelles sont les raisons qui font que beaucoup de filles aujourd'hui ne sont pas éduquées. Comme nous venons de le suivre, selon les résultats de l'enquête EDS, la situation de l'éducation de la fille reste préoccupante.
Merci beaucoup pour cette question. Merci également pour cette invitation. Je suis très ravie de parler de cette question qui est éminemment importante pour notre société. pour le développement de la République démocratique du Congo, pour notre bien-être à tous. En fait, les raisons sont nombreuses qui font que jusqu'aujourd'hui encore, malgré les efforts qui sont fournis par le gouvernement, les politiques qui sont mises en place par des privés, vous venez de le dire, la différence est encore très très grande en termes d'accès à l'éducation entre les filles et les garçons. Je parlais des raisons, c'est la question. En fait, il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord la question de la pauvreté. En fait, quand nous parlons de la question de la pauvreté, je pense, à mon humble avis, que ça ne concerne pas que les individus, les familles, mais je voudrais le mettre plus haut, le mettre même au niveau de l'État, où en fait, quand on connaît, il faut mettre en place des mesures qui font que les filles et les garçons aient les mêmes chances pour aller à l'école. Donc, dans notre manière de concevoir l'éducation, notre idée d'ensemble, dans notre imaginaire collectif, voilà le terme,
oui.
Nous ne pensons peut-être pas correctement à ce problème d'éducation, de l'accès à l'éducation et dans son importance pour les gens. Sinon, l'école serait obligatoire. Et qui dit obligatoire, ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'autres conditions. On va à l'école, qui que l'on soit, de n'importe quelle race ou région ou quoi, tout le monde a accès à l'école.
Donc, et il semble que ça commence par la famille, parce que certains parents disent que la fille, bon, sa place, c'est le mariage. Et les garçons peuvent étudier.
Oui, mais cette manière de penser, comme je dis, ça vient de l'imaginaire collectif. C'est vrai, la famille. Mais il faut que l'État impose, parce que l'État, c'est le pouvoir public. Il faut que l'État, c'est la puissance publique, impose certaines choses. Il faut faire comprendre que maintenant, les gens vont aller à l'école pour se faire. Et les familles vont se mettre, parce que les familles n'ont pas de possibilité. Nous avons la majorité des familles qui sont pauvres. Ce ne sont pas des familles de Kinshasa. Parce que quand on parle comme ça, les gens voient Kinshasa où nous voyons les uniformes circuler oui. dans la rue, alors que Kinshasa n'est qu'un petit point dans la République démocratique du Congo. Donc il faut voir les zones rurales où les gens ne vont presque pas à l'école. Donc quand nous parlons de l'alphabétisme, c'est surtout dans ces zones-là rurales où il faut donner les moyens d'accès. Il faut lutter contre les stéréotypes. Il faut lutter contre, en fait, la pauvreté. Il faut donner les moyens. Et quand j'ai dit qu'on veut rendre l'école gratuite, il faut que ça soit effectivement gratuit. Voilà ce que je peux dire.
D'accord. Mais certains pensent que depuis qu'on a lancé le programme de gratuité de l'enseignement, il y a au moins beaucoup de filles aujourd'hui qui ont repris le chemin de l'école.
Oui, beaucoup de filles qui vont à l'école, certes vrai. Quand on regarde les statistiques, quand vous regardez les statistiques de 2014 et vous regardez les statistiques de, je parle de 2018, vous allez voir la différence. Effectivement, sur le plan de l'accès, beaucoup de filles, le taux a augmenté des filles qui vont à l'école. Mais ça ne suffit pas. Ça voudrait dire, il faut que l'école, au-delà du fait qu'elle est gratuite, il faut que l'école rende service à la société. Il faut que nous ayons des vraies écoles. On n'envoie pas à l'école des gens qui sont affamés. Sinon, comme on dit, ventre affamé,
n'a point d'oreille.
Ça voudrait dire que les gens ne vont pas écouter ce qui est enseigné. L'école, mon fait, l'école, c'est un chemin qui est difficile. Donc, il faut alléger un certain nombre de choses pour permettre justement aux gens qui accèdent à l'école de le faire convenablement, de suivre les matières qui correspondent aux besoins du pays, aux besoins du monde, de l'humanité aujourd'hui. Ne pas faire une école pour l'école. Il faut faire une école pour le développement de l'humanité. Et c'est beaucoup.
Et professeur,
de
qu'est-ce qui fait que, par exemple, généralement, les filles ne s'intéressent pas à certaines filières, les STEM, par exemple, les mathématiques, les sciences. On pense que ça, c'est pour les garçons. Les filles, bon, c'est plus la couture, coupe et couture, les sciences commerciales, etc.
Voilà. Ça, c'est une question très, très importante. On parle des STEM. S-T-E-M. STEM. C'est pour dire, S pour dire science, T pour dire technologie, E pour dire engineering et M pour dire mathématiques. En fait, aujourd'hui, le STEM, je vois des jeunes en uniforme, alors c'est vraiment une occasion pour moi d'en parler. Je disais tout à l'heure qu'on ne va pas à l'école pour le fait d'aller à l'école, que l'école est gratuite. Non, l'école doit être justement cet endroit, ce lieu qui façonne l'homme pour qu'il devienne cette personne dont l'humanité a besoin pour transformer le monde. Donc ça voudrait dire, il y a aujourd'hui même si toutes les sciences sont importantes. Même la couture, elle est très, très importante.
Oui.
On a des top modèles, on peut faire la couture à un niveau très, très élevé et être, en fait...
modéliste, par exemple.
Voilà, hein, vous pouvez citer les grands de ce monde. C'est très important. Donc, il faut aller avec les choses très loin. Il faut pas être minimaliste, être là en bas, j'apprends à peu près. Non, il faut aller très loin avec les choses et il faut très bien étudier. Avant d'aller dans mes thèmes là, je voudrais quand même expliquer. Il faut très très bien étudier. Donc quand on va à l'école pour connaître, c'est-à-dire pour apprendre au départ. Écrire, lire, calculer, compter, ce sont des choses, des fondamentaux qu'il faut vraiment connaître parce que c'est ça qui va vous permettre d'aller plus loin dans la vie. Nous apprenons, nous, dans ce pays, en français. Ça voudrait dire que la langue de l'apprentissage doit être très bien maîtrisée. C'est très important parce qu'il faut faire des recherches dans cette langue. On ajoute une deuxième langue, c'est peut-être l'anglais, vous pouvez choisir. C'est important de bien étudier. Kotangama lamupenza, savoir faire les choses.
Hein? Merci d'encourager, d'applaudir.
Maintenant,
très, très fort, professeur.
Je voudrais parler des thèmes jeudi avec votre autorisation,
oui.
Parce que c'était ça la question. Quand on n'a pas bien étudié au départ, on n'a pas des fondamentaux, c'est difficile d'accéder à un niveau plus loin. C'est difficile de faire d'autres choses. C'est pourquoi vous allez vous arrêter et on a même tendance à tomber dans les grossesses précoces ainsi de suite ou les mariages précoces parce que justement les gens n'étudient pas bien et comprennent pas pourquoi ils doivent avancer. C'est très important. Maintenant, les STEM, c'est quoi? Aujourd'hui, les gens doivent de plus en plus dans le monde faire les sciences, faire les technologies, faire les ingénieries, faire les mathématiques, parce que c'est ça les leviers du développement aujourd'hui. Si nous avons des gens qui entrent dans les biologie, sciences, on appelle ça maths physique,
oui.
N'est-ce pas? Maths physique, biologie. Et si vous terminez, vous allez à l'université, vous faites ingénieur, polytechnique.
Polytechnique, voilà.
Physique, mathématiques.
Pour devenir ingénieur civil,
oui,
tout ça.
Maths info. Ces choses-là, c'est ça le développement aujourd'hui, parce que ça va nous permettre, un pays comme nous, qui est très riche, sur le plan des minerais, par exemple, nous aurons des personnes qui seront formées dans ce domaine-là et qui sauront faire en sorte que nos minerais nous profitent, parce que nous allons créer des industries. Ils vont, avec les connaissances qu'ils auront obtenues à l'université, de créer des industries, avec les moyens, bien sûr, que l'État mettra en ordre, mais on aura des personnes très bien formées pour aider le pays. Si nous avons des personnes en biologie, par exemple, je vois en fait mes consoeurs de l'autre côté, qui mettent en place des systèmes pour, par exemple, augmenter la production. Je donne un exemple du manioc. Ce sont des gens qui réfléchissent à ces choses. Mmh. Ça va lutter contre la faim. Et nous aurons donc des gens partout en RDC qui mangeront parce qu'il y aura des gens qui ont fait les sciences et qui vont permettre en fait d'augmenter la production du manioc.
Merci, professeur. Je reviens à vous. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure.
C'est trop de choses, mais il faut faire les STEM. Hein.
Il faut faire les STEM. Vous allez revenir là-dessus, professeur. On va donner la parole à Madame Anne-Sophie Nzouzi-Odia. Elle est neuropraticienne et fondatrice de l'initiative pédagogique Anis Methods. Elle va nous en parler d'ailleurs tout à l'heure. Elle est également vice-présidente de la Chambre de commerce nationale et de l'économie de la RDC. Madame Anne-Sophie, ravie de vous avoir aujourd'hui dans cette émission. Alors, neuropraticienne, qu'est-ce que cela veut dire? Et parlez-nous de votre structure dénommée initiative pédagogique Anis Methods.
Bien sûr. Alors, est-ce qu'on m'entend?
Oui, allez-y.
C'est bon? Alors, merci beaucoup pour la parole et merci pour l'invitation. Alors, je vais commencer par vous définir ce qu'est neuropraticienne, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, pas toujours intuitif. Alors, dans le terme neuropraticien, vous avez neuro, qui fait référence en fait aux neurosciences. Les neurosciences, c'est les sciences qui étudient le fonctionnement du cerveau. Et puis praticienne, donc c'est quelqu'un qui est dans la pratique. Donc en fait, ce que je fais, c'est proposer des services dans le secteur de l'éducation avec l'aide des neurosciences. De façon tout à fait concrète, c'est par exemple aider les étudiants qui ont des problèmes d'apprentissage comme la dyslexie, donc c'est par exemple des étudiants qui confondent un peu les lettres, la dyscalculie pour les chiffres, et puis des étudiants qui ont des problèmes beaucoup plus spécifiques comme l'autisme ou alors l'hyperactivité. Et alors, mon entreprise, donc, que j'ai appelée Anis Methods, en français les méthodes d'Annie, c'est une entreprise qui vise à aider les étudiants de la primaire à l'université à améliorer leur performance scolaire et académique. Je le fais à travers deux types de services. Vous avez tout d'abord le service de tutorat, où il y a par exemple l'appui méthodologique, donc je vous aide à trouver votre méthode d'étude, la méthode qui fonctionne pour vous. Comme madame l'a dit, il est important de très bien étudier, mais pour bien étudier, il faut connaître les méthodes qui fonctionnent pour soi. Et puis vous avez d'autres services tels que l'apprentissage des langues, la correction des travaux académiques, etc. Et puis le service neuroscientifique, donc attrait au coaching, qui justement va permettre à ces étudiants qui ont des difficultés de trouver des solutions pour naviguer paisiblement dans leur scolarité. Donc voilà.
Merci. Bien, merci beaucoup pour cette présentation. Alors dites-nous comment faire de l'éducation un levier de l'autonomisation et du développement de la jeune fille.
Alors je pense que tout d'abord l'éducation doit être une priorité pour tous. Je pense que vous connaissez tous l'adage qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et pour l'éducation, c'est pareil. L'éducation est une question de collaboration entre les professeurs, la communauté et les parents. Si on en fait une priorité pour les parents, pour la communauté et pour les écoles, je pense qu'on arrivera à des résultats plus probants. Par exemple, on arrivera à l'installation de structures qui pourraient permettre à des étudiants en difficulté de pallier à leurs problèmes. On pourrait enseigner aux parents l'importance de laisser leur fille aller à l'école en leur parlant des potentiels de leur enfant et de ce que ça va apporter au niveau développemental. Et d'un point de vue communautaire, c'est aussi très important parce que comme les sociétés africaines sont des sociétés communautaires, si on fait de l'éducation une priorité, si tout le monde se passe le mot, ça fait que plus rien n'empêchera l'enfant d'aller étudier. Donc pour moi, l'éducation doit être un levier, mais cela doit passer par la conscientisation de ces audiences que j'ai citées, donc les parents, la communauté et l'école, les instituteurs et consorts.
D'accord. Bien, on va recueillir les questions dans la salle. Y a-t-il des questions par rapport à l'éducation de la jeune fille? Voilà, qui vont se lancer déjà les premières personnes à vouloir poser des questions? Si vous êtes là, juste levez la main et Tati va vous inviter à prendre la parole. Le micro est déjà ouvert. Alors, une autre question, quels sont les défis par rapport à l'éducation de la jeune fille aujourd'hui dans notre pays? Les défis qu'il faut relever?
Alors, moi je pense que Madame la professeure en a relevé quelques-uns. Elle a parlé de la pauvreté. Bien sûr, on parle aussi des grossesses précoces, des mariages arrangés. Mais pour moi, il y en a vraiment un autre qui est très important, qui est en fait les stéréotypes, les préjugés, les idées préconçues. Parce que, vous savez, lorsque on dit par exemple que, ma fille, elle doit juste aller à la cuisine, faire à manger, etc., on sème une graine. Et cette graine, on appelle ça une croyance limitante. Une croyance limitante, c'est quelque chose qui va nous empêcher d'exploiter notre plein potentiel. Quand on finit par croire ce qu'on nous dit, dans ce cas de figure, ma fille n'est faite que pour la cuisine, eh bien ça nous empêche en fait d'aspirer à autre chose. Ça nous empêche même d'aspirer au STEM, comme madame la professeure l'a dit, parce que du coup, vous semez dans l'enfant et dans la jeune fille une mauvaise graine, une graine qui va l'empêcher d'atteindre son potentiel. Et ça, il faut en avoir conscience, parce que d'un point de vue cognitif, donc cérébral, il est très facile de prendre personnellement tout ce qu'on nous dit et de l'intégrer et d'en faire notre identité. C'est pour ça que les filles quittent l'école beaucoup plus tôt. C'est pour ça qu'on les pousse à se marier, etc. Donc moi, je pense que déconstruire les stéréotypes dans la communauté, à l'école et avec les parents, c'est vraiment quelque chose qui sera plus que bénéfique parce que la fille et la jeune fille n'aura plus de limites. Et elle se sentira à l'aise pour explorer.
Et qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent qu'une femme, si elle pousse trop loin les études, elle réduit les chances de se marier?
C'est faux. C'est faux. Non,
c'est pas du tout vrai.
Non, c'est tout à fait faux. Écoutez, moi je pense que déjà la carrière professionnelle n'a rien à voir avec la vie amoureuse. Moi je pense que il y a de tout. Il y a des hommes qui aiment les femmes qui ont été à l'école et qu'on sort. Et puis même nous les femmes, nous n'allons pas à l'école pour asseoir notre domination sur les hommes. Pas du tout. On va à l'école pour s'instruire, on va à l'école pour contribuer à la société parce qu'on sait très bien que la femme contribue au développement. C'est pour ça que même aux Nations Unies, deux des objectifs de développement durable, c'est l'égalité homme-femme et l'éducation pour tous. Donc vraiment, une femme qui est éduquée, une femme qui sait lire, écrire, etc., c'est même un bénéfique, non seulement pour sa communauté, mais aussi pour ses enfants. Parce qu'il y a des études qui ont montré que quand la mère est éduquée, l'enfant lui-même est éduqué. Ça continue, hein, par transmission intergénérationnelle. Donc non, je pense pas que...
Ça tire pas la roue, hein.
Non.
Merci d'applaudir très très fort. Bienvenue dans ce programme spécial au Capi Service, en direct du Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale, à l'occasion de la clôture du mois de la femme. On va recueillir rapidement les questions dans la salle. Bien, merci. Avancez rapidement. Le micro est de ses côtés. Ceux qui ont des questions, on va peut-être prendre une première série des 5 questions. Merci. Venez rapidement vers ce micro. Et vous allez juste vous présenter le nom. Et vous nous parlez peut-être de votre établissement et puis vous pouvez poser la question. Oui, merci. Levez-vous, revenez rapidement. De ce côté, il y a un micro. Oui, on prend une première série de 5 questions. Les intervenantes vont répondre et ensuite on prendra une deuxième série. Bien, bonjour.
Bonjour.
Allez-y. On vous appelle comment?
Moi, je m'appelle Kimbuya Sokigras. Je suis étudiante en troisième année commerciale et gestion. Je suis avec mes collègues ici, nous venons tous du collège Sainte-Anne. J'ai attentivement écouté ce que les deux dames ont dit et malheureusement j'ai oublié le nom de la première dame.
Professeur Baïdina?
Oui, Madame Baïdina.
Madame Baïdina.
La question est pour ce qu'elle a dit. Elle a parlé du fait que l'éducation devrait être pour tous, pour les jeunes hommes, les jeunes filles, et aussi qu'elle devrait être gratuite parce que l'État a déjà pris des dispositions pour la gratuité de l'enseignement. Mmh. Et justement, pendant que nous étions, moi je suis dans une école privée, mais nous pouvions...
Là-bas, il n'y a pas de gratuité, hein, c'est
non,
sûr.
Non. Là-bas, nous payons bel et bien les frais. Et nous rencontrions d'autres élèves qui provenaient d'établissements publics. Alors, je me dis...
Et la gratuité, c'est seulement à l'école de base. Je pense que c'est seulement au primaire. Enseignement de base, c'est pas au niveau secondaire. Ok, allez-y.
Ah, je vois. Bon, je dis, certes, avec la gratuité de l'enseignement, il y a des jeunes filles qui ont accès à l'éducation. Mais il y a également des faillances au niveau de la transmission des matières à cause du nombre exorbitant des élèves dans les établissements publics. Parce que je pense que si l'éducation est gratuite, même si ça n'est qu'au niveau de l'éducation de base, les parents se ruent quand même pour inscrire leurs enfants afin qu'ils puissent avoir accès à l'éducation et afin de ne pas trop dépenser vu que c'est gratuit. Alors avec ce nombre-là, parce que nous avons remarqué, les salles sont bondées et les profs ont du mal à dispenser les cours, les élèves ont aussi du mal à les assimiler. Alors, je me dis, cela s'est passé quelques mois après que l'État ait pris ses dispositions pour la gratuité de l'enseignement. Alors je me dis, comment y remédier?
D'accord. Merci pour la question. Oui, merci beaucoup. Vous pouvez la suivante.
Bonjour.
Bonjour.
Je me présente au nom de Petit Moni Mitulia, l'élève de 3e commercial et gestion au Collège Sainte-Anne. Moi, ma question est basée sur le thème de l'éducation de la jeune fille. Vous avez dit qu'il y a seulement plus de 59% de jeunes filles et femmes qui sont alphabétisées. Ma question est celle-ci. Quelles sont les méthodes que l'État envisage de mettre à accroître le nombre actuel de femmes et filles alphabétisées?
Ok. Quelles sont les méthodes pour accroître le nombre des femmes alphabétisées? C'est la seule question, l'unique question, ou il y a une autre?
Il n'y a que ça.
Il n'y a que ça. Merci beaucoup. La suivante. Merci de l'encourager par vos applaudissements. Bonjour.
Bonjour. Je suis Madame Mariam, chargée de la leadership féminin dans une structure, la Synergie. Moi, j'ai une question qui m'a beaucoup plus
merci
touchée.
Merci d'approcher les micros.
Et qui ne cesse de me toucher régulièrement par rapport à l'éducation de la jeune fille. En même temps, je suis commerçante aussi. Je fais le voyage au village. Je puisse remarquer au village les jeunes filles ne sont pas vraiment envoyées à l'école. Et j'ai aussi fait des investigations pour savoir pourquoi ces jeunes filles ne partent pas à l'école. Elles m'ont dit ceci, là-bas au village, elles n'ont pas vraiment des écoles qui peuvent leur aider de fréquenter et d'étudier régulièrement le cours comme nous ici à Kinshasa. Et ma question est celle de savoir comment résoudre ces problèmes-là de la scolarité des enfants, des enfants du village. Comment faire pour résoudre ce problème de l'éducation de la jeune fille au village?
C'est quoi le vrai problème au village? Il n'y a pas assez d'écoles?
Il n'y a pas assez d'écoles.
Il s'agit de quel? Vous étiez dans quel village?
À Kenge, à Zumbu, à Kimona, c'est un peu un nom compliqué. Il y a de noms compliqués. Zumbu, Kimona, c'est le même problème. Les jeunes filles ne partent pas à l'école. Vraiment, là-bas, il n'y a pas d'écoles.
Dans le Bandundu.
Non, pas à Bandundu. Kenge. Kwango,
dans
voilà.
Le Kwango, d'accord.
Oui, Kwango, oui.
D'accord. Merci beaucoup, madame, pour la question.
Merci.
Voilà, il n'y a pas assez d'écoles dans le Kwango, ce qui fait que les jeunes filles ne vont pas à l'école. Bonjour, monsieur. Quelle est votre question? D'abord, merci de vous dire qui vous êtes et puis vous pouvez passer la question.
Bonjour, merci pour la parole. Je suis maître Faustin Balagizi. Je suis de l'entreprise Congolese Discovery qui travaille pour la découverte de la République démocratique du Congo. Déjà le thème il est très important parce qu'on venait même de travailler sur ce thème avec l'une de nos écoles partenaires. On a parlé de l'importance de l'éducation de la femme pour l'avenir de demain. Alors ma question est plus adressée au professeur. Il a parlé du fait que la gratuité a donné vraiment l'accès aux filles qui peut-être n'avaient pas de moyens. Et actuellement, quand même avec la gratuité, on a vu que les filles et les femmes ont quand même accès à l'éducation. Je voudrais demander, est-ce que vous pensez que la gratuité suffit? Congolese Discovery, c'est une entreprise touristique et il m'arrive aussi de voyager. J'arrive quand même aussi dans des villages et je me suis rendu compte que le problème n'est pas seulement la gratuité, mais il faudrait aussi sensibiliser le parent, parce qu'il y a des endroits où le parent pense que la femme, sa place, c'est à la cuisine. La femme, sa place, c'est au champ. Elle ne peut rien faire d'autre parce que c'est seulement l'homme qui peut prendre le dessus. Alors, Est-ce qu'on a sensibilisé la femme? Quelles sont les méthodes qu'on peut faire pour que la famille puisse aussi, le parent, puisse comprendre que la femme a également droit à l'éducation?
Merci monsieur, merci de l'encourager par vos applaudissements. Oui madame, approchez, bonjour.
Bonjour et merci de m'avoir accordé la parole.
Merci d'approcher du micro, voilà.
Bon, je vais être directe à mes questions pour ne pas essayer de formuler plusieurs phrases. Tout comme on le dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, en fait, moi mes questions... Le dédame peut répondre.
D'accord.
Je n'ai pas de particularité. Qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes filles qui abandonnent les études, pas par manque de moyens, mais parce qu'elles se disent qu'elles finiront leur vie dans le foyer? Et ma deuxième question, qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents qui définissent les longues études uniquement pour les hommes et non pour les femmes? Et la troisième, c'est de savoir, qu'est-ce que vous pensez des professeurs à la place d'éduquer les étudiants, particulièrement les filles, à s'épanouir et utilisent leur naïveté pour profiter d'eux? Parce que ce sont des cas que nous rencontrons avec plus dans des milliers collectifs, dans des universités et tout. Le professeur...
Avec le phénomène point sexuellement transmissible.
Tout à fait, pour ne pas aller direct, vous avez compris. Le professeur utilise la naïveté des filles, surtout lorsqu'il y a de manque des comptes, pour profiter d'eux. Parce qu'ils se disent, voilà, pour que tu passes, il faut ceci, il faut cela. Et du coup, tout comme la dame vient de le dire, tout se passe dans la tête.
Mais il semble que c'est pas toujours le professeur qui commence, parfois c'est vice-versa, ça vient de Paris.
Non, mais le professeur... Vous avez le devoir d'aider le fille à s'épanouir, surtout mentalement et voilà, pour enfin qu'elle soit ici dans la société. Alors, ils profitent de la naïveté des femmes. Parce que peut-être que non. Par exemple, le professeur dit pour passer, voilà que tu as manque de cotes, ah, il faut donner de l'argent. Et l'argent là va aller jusqu'à une somme là que le professeur dit que la fille ne sera pas capable.
Oui.
Et du coup, voilà, il y a un autre moyen pour payer, voilà. Et voilà, il se passe comme ça. Ça, c'est profiter des jeunes filles. Et du coup, la fille va mettre dans sa tête que non, voilà, même si je n'ai pas d'argent, je peux donner mon corps et puis passer des classes, n'est-ce pas? Voilà, ils sont d'accord avec moi. Sur ce point, en tout cas, moi, je ne suis pas contente de ça parce que j'ai failli être victime de ça. Alors, aidez-nous à aller de l'avant.
Et comment vous avez fait pour y échapper?
Parce que moi, j'ai un état d'esprit très solide. Je ne fais pas vendre mon corps pour deux points. Tout en sachant que je suis assez intelligente. Et puis, alors, je vais utiliser ma tête. J'aspire à être médecin. Et médecin généraliste. Dieu va me faire grâce de poursuivre mes études et défendre ma thèse du doctorat pour être docteur en médecine. Et je serai mais si Dieu me fait grâce, je vais en tout cas créer un objet pour combattre ces genres
ces antivaleurs.
De oui, les antivaleurs. Vous allez voir devant vous un professeur qui a beaucoup plus de valeur, mais là, il sait que son but c'est courir derrière les petites coupes jupes des femmes. Et c'est quelque chose que la communauté doit tenir. Parce que
merci.
Ce n'est pas
bien. Merci beaucoup. Merci de l'applaudir de devant. Ben, ça commence à devenir intéressant, hein? D'accord, madame, vous avez la parole.
Bonjour à toutes et à tous. Madame Ifi, politologue et assistante de recherche à l'université. On parle de l'éducation de la jeune fille. Et là, on voit la scolarisation, bref, les études. Alors, j'aimerais poser la question à nos grandes dames. D'abord, à toutes les dames qui sont dans la salle, heureux moi de la femme. L'éducation de la jeune fille. La problématique est, d'où vient la jeune fille? D'où provient la jeune fille? N'est-ce pas de la famille? La famille reste et reste la cellule de base de toute société. Mais j'ai comme l'impression aujourd'hui, on néglige ces grands détails qui est la famille. Et d'où provient la famille? N'est-ce pas dans le mariage? Alors, aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'on oublie d'éduquer la jeune fille pour embrasser ces grands défis de la vie qui est le mariage, très important. Vous faites des grandes études, oui, mais le mariage reste la base pour constituer une famille et pour constituer cette cellule de base de la société. Alors, mesdames, ma question est la suivante. Une femme intellectuelle qui a fait de grandes études, peut-elle nécessairement embrasser une carrière professionnelle? Et pourquoi pas mettre ses atouts, ses potentiels dans son foyer également? Parce que moi, je me dis, la cuisine, le foyer, c'est toute une administration. Donc, je peux être licenciée en nutrition et mettre mes potentiels au service de mon mari, mes enfants, pour qu'ils mangent bien. Pas nécessairement embrasser une carrière professionnelle.
D'accord. Alors, c'est la seule question?
Oui, justement, c'est la seule question. Alors, j'aimerais aussi qu'on puisse vraiment encourager les jeunes à pouvoir fonder une famille. C'est bien de faire des grandes études. La famille reste, comme je le disais, la cellule de base de toute société. C'est là que naît ce qu'on appelle l'éducation de base. Et avec la famille, on nous épargne beaucoup de choses, hein, les phénomènes enfants de la rue, toutes ces choses, et je pense que c'est très important. Faire des études, c'est bien, mais fonder une famille, c'est mieux.
Merci, merci madame pour votre intervention. Merci pour toutes les questions. Professeur Baïdila. Oui, on commence avec madame Anne.
D'accord. Alors, merci pour toutes les questions. Alors, je vais commencer par répondre à la question qui a été posée sur les façons dont on pouvait accroître le nombre de femmes alphabétisées, hein, donc les méthodes, etc. Alors, moi, je pense que une méthode qui est très simple, c'est de simplement, d'une part, comprendre un petit peu l'imaginaire collectif, comme l'a dit le professeur. Donc, au sein de cette communauté, de un, comment est perçue l'éducation, comment est perçue la jeune fille ? Après cette observation, il faut maintenant se demander comment faire en sorte que la communauté voit l'éducation de la jeune fille comme un atout pour son développement. Donc en fait, le tout ici, c'est pas de venir sous nos grands sabots et dire que voilà, moi je sais mieux que toi. Non, c'est de prendre le contexte local tel qu'il est, le comprendre et voir maintenant comment on peut semer des graines qui vont germer et qui vont faire en sorte que les mentalités vont changer. Pour moi, c'est à ce niveau-là. Donc au niveau des mentalités, parce qu'il faut savoir aussi que, on le sait tous, hein, c'est surtout des milieux ruraux, donc il faut que l'éducation dont on parle serve directement les intérêts de la communauté. Est-ce que c'est intéressant d'aller demander à une jeune fille de Bounia d'étudier la médecine? Oui, pourquoi pas, mais peut-être qu'à ce niveau-là, il y a des choses plus importantes. Pourquoi ne pas lui apprendre à labourer la terre.
Par rapport aux besoins de l'environnement.
Pour la petite histoire, il y a une école à Bukavu qui est très intéressante, qui s'appelle Ebitex International, et eux, ils ont créé leur curriculum essentiellement sur les besoins de la société. Donc, dans leur école, ils forment des futurs ingénieurs, des futurs agronomes, vous voyez, pour répondre aux besoins de la communauté. Donc, pour moi, c'est ça. On fait un changement des mentalités en acceptant et en comprenant le contexte local. Excusez-moi.
D'accord.
Alors, la deuxième question, en tout cas que j'ai notée, elle était assez vaste. Il y avait trois sous-questions.
Oui.
C'était ce qu'on pouvait conseiller aux jeunes filles qui abandonnent l'école, je pense. Et puis après, il y avait voilà, ce qu'on peut dire aux parents qui refusent d'emmener leurs filles à
voilà,
l'école.
Voilà, par exemple, il y a une dame qui nous a parlé du Kwango, où les filles veulent bien étudier, mais il n'y a pas assez d'écoles dans l'environnement, dans cet environnement-là. Comment on résout ce problème ?
Ben ça, je pense que c'est un niveau étatique, hein, c'est au niveau des infrastructures. Donc là, je vous avoue que je n'ai pas une réponse toute faite comme ça. Mais au niveau du conseil que moi, je pourrais donner à la jeune fille, c'est vraiment de l'inviter à réfléchir à son avenir et à ce qu'elle veut. Parce que oui, on parle de l'éducation, on parle des grandes études, etc. Mais il y a des écoles pour tout. Vous savez, on n'est pas tous obligés de devenir avocat, médecin et consort. Hein. Donc moi, je l'inviterais simplement à se connaître, l'inviter à faire une introspection et à comprendre ce qu'elle veut réellement. Et à lui dire que ne pas aller à l'école n'est pas la solution, en fait. Parce qu'à l'école, on apprend des compétences essentielles, compter, écrire, etc., qui vont lui servir dans tout. Donc voilà, moi c'est ce que je ferai en tout cas.
Madame Anne-Sophie, est-ce qu'il y a assez d'écoles pour les filles qui ont des besoins spécifiques, comme vous l'avez dit par exemple au début là ?
Il n'y en a pas suffisant.
Il n'y en a pas assez.
À vrai dire, même pour les personnes qui ont des besoins spécifiques en général, il n'y en a pas assez. Et pour les filles, c'est d'autant plus important parce que si je prends le cas de l'autisme par exemple, c'est une condition qui est diagnostiquée très tard chez la fille. Soit elle est diagnostiquée tard, ou parfois elle est mal diagnostiquée. Et cela vient du fait que, encore une fois à cause des stéréotypes, puisque les filles ne montrent pas les symptômes de la même façon que les garçons, eh bien c'est pris pour autre chose. Par exemple, une fille qui ne parle pas, ou une fille qui va s'énerver ou qui va être agitée, on va dire qu'elle est juste timide, ou alors elle se met en colère, etc. Alors qu'il y a un problème sous-jacent. Et c'est aussi parce que les filles sont très douées pour masquer, camoufler quand quelque chose ne va pas. Et ça, c'est aussi le résultat de la communauté, le fameux Kanga Motema, là. Ça ne nous aide pas. Parce que même dans les diagnostics pour des maladies spécifiques telles que l'autisme, ça pose problème. Donc, clairement, dans les écoles, je pense qu'il faudrait ce genre de dispositif. Hein. Et donc, voilà. Mais je pense qu'un travail est fait en ce sens.
Voilà. Et comment vous faites alors pour aider ces filles qui ont des besoins spécifiques ? C'est des consultations à domicile ? Comment ça se passe ?
Oui, alors ça dépend. Donc d'abord, c'est toujours une consultation avec les parents. Donc on analyse en fait où est le problème et alors où est le besoin. Et en fonction de ça, je fais une intervention. Mais il faut savoir que l'intervention, elle est basée sur une approche de, comme on appelle en anglais, data collection. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'observe la jeune fille ou le jeune garçon pendant quand même un certain temps, 5 mois, 6 mois et consorts, pour remarquer un petit peu les habitudes, le comportement. Et seulement après cette observation, je vais être en mesure de dire que, bah, par exemple, tel enfant a besoin d'une intervention d'un point de vue cognitif et comportemental. Ou alors, pour un autre enfant, c'est peut-être la thérapie occupationnelle. Ça, c'est vraiment au cas par cas.
Au cas par cas.
Absolument.
D'accord. Professeur Baïdi, là, vous avez la parole.
Merci encore pour toutes les questions. Deux questions, je dirais, très pertinentes, parce que c'est ça qui nous dérange au jour le jour. Excusez-moi de commencer par la dernière question qui a été posée, qui faisait en fait l'opposition entre le mariage et la vie du mariage et la vie professionnelle pour les études. Et la dame a terminé, c'est Rufi, c'est ça, Mifi, a terminé par dire le mariage, c'est bien. Non, le mariage, c'est mieux, les études, c'est bien. Je dis justement le contraire. Excusez-moi de corriger cela. Non, je ne laisse pas passer. Regardez, quand nous étudions, étudier est une obligation. Aller à l'école, c'est une obligation pour tout le monde, qui que l'on soit. Riche, pauvre, fille, garçon, noir, blanc, je ne sais quoi. Étudier, c'est une obligation pour l'humanité. Est-ce que je me fais comprendre? C'est une obligation. Dans certains pays, l'école est gratuite, justement, parce que tout le monde doit aller à l'école de la même manière. Le mariage, c'est un choix. Est-ce que je me fais comprendre? Le mariage, c'est un choix, madame. On peut se marier ou pas. Ce n'est pas le mariage qui donne à la fille sa valeur en tant qu'être humain. Non. Non. Alors sinon, que direz-vous de ces filles qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas eu la chance de se marier? Elles sont moindres que les autres qui sont dans le mariage? Non. Mais le mariage, c'est bon, parce qu'il faut former des familles. Est-ce que je me fais comprendre? Alors quand vous dites qu'aux filles, il faut absolument vous marier, c'est pourquoi les filles vont se faire deuxième, troisième bureau des gens, parce qu'il faut dire qu'elles sont mariées. Non, je dis encore non. Non et non.
C'est parce N-O-N. En fait,
c'est en fait une femme qui a été, qui est bien éduquée à toute sa valeur. C'est-à-dire qu'elle sera autonome. Elle va travailler dans la société. Elle va rendre service. Elle est cette femme qui sera la disposée. Elle est autonome. Elle est capable de se battre. Elle est personne humaine. Elle a les atouts pour être un être humain accompli. Ça, il faut le retenir, les jeunes. Et les filles et les garçons, c'est très important. Maintenant, le mariage est très important aussi. Parce que nous devons avoir des familles, n'est-ce pas, qui sont bien fondées. Mais c'est un choix. Ce n'est pas une obligation pour les filles. C'est un choix. Et il faut bien faire ce choix. Parce que sinon, vous êtes perturbés toute la vie. Vous ne serez pas heureuse si vous choisissez mal. Parce qu'il faut absolument se marier. Est-ce que je me fais comprendre? Il faut des bons choix. Moi, je m'étais mariée. Et quelques années après mon mariage, je suis devenue veuve. Qu'est-ce qui m'a sauvée? C'est mes études. J'ai très bien étudié et j'ai étudié beaucoup. Ce qui fait que j'ai eu la possibilité de rester en famille. La famille, ce n'est pas seulement le mariage. Excusez-moi, je dis. La famille, ce n'est pas seulement là où il y a un homme, une femme et des enfants. Parce qu'on a des cas différents. Moi, je suis dans une famille où il n'y a pas d'homme, il n'y a pas un mari. Mais je suis dans une famille où il y a une mère et des enfants. Vous comprenez? Mais il faut que cette femme-là soit capable de bien éduquer ses enfants, de permettre que ses enfants s'accomplissent, même s'il n'y a pas un homme. Mais il y a des familles où il y a un homme, un papa, une maman et des enfants. Mais aussi des familles où il y a un papa et des enfants, sans mère. Vous comprenez? Donc, les questions de mariage, il faut très bien parler de ça. Il faut parler de ça correctement. Ça, j'étais femme mariée, j'étais travailleuse, mais j'aimais le tout. Et je faisais tout bien. Et j'ai aimé tout ça. Et rien ne m'a dérangé.
Là, il y avait un équilibre entre la vie familiale.
Équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle. Les gens qui me connaissent savent que j'ai tout fait bien. Parce que j'aimais tout. Donc c'est possible d'être heureuse dans le mariage, mais également dans la profession, dans les études. Et d'asseoir tout ça. Voilà ce qu'il faut dire aux jeunes. pas seulement le mariage. Non, ça devient un stéréotype, n'est-ce pas? Non, ça devient faux. Ce sont des fausses idées. C'est un choix. Très bien. Maintenant, la question concernant l'accès à l'éducation des filles dans les zones rurales. C'est vrai, c'est difficile. J'en avais parlé tout à l'heure en disant, nous voyons Kinshasa, les uniformes défiler. Mais quand vous allez dans les provinces, mais c'est tout un problème. Et premièrement, ça c'est de la responsabilité de l'État, qui en fait ne doit pas seulement se limiter au fait de dire que l'enseignement est gratuit, mais il faut permettre aux populations, aux enfants d'accéder à l'éducation. Cela veut dire qu'il faut construire des écoles. Il faut construire des écoles, quand vous regardez de près, ce n'est pas, ça ne coûte pas très très cher. Il faut que les ingénieurs soient ici pour nous dire. Donc il faut mettre à la disposition des communautés des écoles. Il faut mettre à la disposition des communautés des enseignants, mais également des livres, des matières, des personnes bien formées pour enseigner ces gens-là. Et quand on parle d'accès, il ne faut pas que les filles fassent des kilomètres et des kilomètres pour aller à l'école. Sinon, ils vont rencontrer des violences en cours de route. Donc, oui. Il y a tous ces éléments-là qui, en fait, concernent en premier lieu l'État, le pouvoir public. Après, on viendra dans les questions des familles, des communautés et pourquoi pas de l'Église et des personnes elles-mêmes. Donc, il y a toutes ces responsabilités.
Professeur Baïdila, il y a une étudiante qui a posé la question de savoir, avec la gratuité aujourd'hui, les filles et les garçons vont à l'école, mais les classes sont surpeuplées.
Oui, parce que c'est vraiment ce que je suis en train de dire, que ça, c'est la responsabilité de l'État, mais également peut-être des privés. Vous avez des entreprises privées. Dans d'autres pays, ils mettent en place, ils construisent des écoles. C'est très important de connaître les besoins. Il faut construire des écoles, il faut mettre des enseignants de qualité, il faut des bibliothèques, des livres, il faut des matières, il faut des recyclages, il faut en fait toutes ces politiques pour permettre en fait d'atteindre les objectifs. Donc c'est une question très très importante pour notre société. Je voudrais dire que quand on connaît, les dirigeants doivent avoir une vision. Qu'est-ce que nous voulons avoir dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans comme personne dans notre société, il faut construire ces gens-là. Donc ça va prendre du temps et des moyens. La question qui a concerné les points sexuellement transmissibles.
Ah, la dame était terrible, hein.
Elle a dit beaucoup de choses.
Oui.
Oui, je dis, ce n'est pas faux ce qu'elle a dit. D'abord, j'ai écrit en fait ce qu'elle a dit. Elle a dit des choses qui ont besoin de réponses. Elle dit il faut scolariser les gens, ben je crois que c'est ça, mais les professeurs parfois ou les enseignants freinent.
Oui, freinent l'élan des filles.
L'élan des filles.
Oui.
Ça c'est une question qui est vraie. Je ne peux pas nier cela. Je suis professeur d'université pendant plusieurs années et j'enseigne à plusieurs universités. Je sais, et moi-même je suis une fille, donc je sais. Mais regardez, l'exemple que vous avez donné, mademoiselle, c'est très important. Il faut savoir qui l'on est. Les filles sont capables de beaucoup de choses. Parce que les stéréotypes nous disent dans les familles, les communautés, « Oh, les filles ne sont pas très intelligentes, voilà, tu vas à l'école, demain tu vas te marier. » Et cela, en fait, décourage les élans. Si l'on sait qui l'on est exactement, qu'on a les moyens et qu'on est capable de rendre ces moyens-là, même si un professeur vient vous faire des avances, vous allez dire non, parce que vous savez qui vous êtes et de quoi vous êtes capable. Il faut montrer que vous êtes une personne capable de dire non à un certain nombre de choses. Il faut d'abord dire non à un certain nombre de choses, et c'est très très important. C'est possible de fuir les violences, c'est possible de fuir les points sexuellement transmissibles quand soi-même on est vraiment capable de se comprendre et de faire son travail en tant qu'étudiant.
D'accord. Madame Anne-Sophie.
Oui, je voulais juste ajouter un petit point par rapport à ce que Madame a dit et la question qui a été posée sur les classes qui sont bondées.
Oui.
Moi, je pense que d'un point de vue étatique, quand on organise, quand on décide par exemple de faire des infrastructures pour l'école, il ne faut pas simplement penser en termes, il faut des classes, il faut des bancs, etc. Non. Parce que la réalité, c'est que quand vous avez des classes trop bondées, il est plus difficile de se concentrer. Qui dit manque de concentration dit moindre performance et pas de résultat. Il est important que dans la façon dont on conçoit l'éducation, dans la façon dont on planifie l'éducation en RDC, qu'on tienne compte des détails. Est-ce que vous saviez par exemple que la quantité de lumière, d'exposition à la lumière dans une classe, ou le bruit, ou même les odeurs peuvent complètement distraire un élève. Donc vous voyez, c'est des petites choses auxquelles il faut penser pour mieux organiser les classes. Et pour moi, l'un des paramètres importants, c'est la quantité d'élèves dans la classe. Parce que l'élève doit avoir l'occasion de pouvoir poser des questions. Il faudrait favoriser le travail de groupe. Mais malheureusement, quand on est 60, ce n'est pas possible. Donc je tenais simplement à ajouter ce point-là parce que c'est beaucoup plus que les infrastructures lourdes. C'est vraiment les détails. Tous ces détails qui font que l'apprentissage se fait de façon optimale et efficace.
D'accord. On va terminer bientôt, très bientôt, la première partie de cette émission spéciale au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale à l'occasion de la clôture du mois de la femme. Alors, je vais poser la dernière question aux intervenantes. Professeur Baïdila, pouvez-vous nous démontrer en quoi l'éducation de la jeune fille est un levier d'autonomisation et du développement?
Très bien. Encore une fois pour cette question, merci. C'est en fait tout ce que nous étions en train de dire ici. Quand une femme est éduquée, elle devient une personne accomplie. C'est-à-dire que, au-delà du fait qu'elle peut, parce que nous parlons des jeunes filles et des femmes, au-delà du fait qu'elle peut se marier ou pas, mais en tant que personne, elle sera capable de sortir de beaucoup de situations difficiles qui vont se présenter dans la vie. C'est l'autonomie, c'est-à-dire qu'elle sera capable de se prendre en charge, de prendre en charge ses enfants ou sa famille, ses parents, parce qu'elle aura un bon travail. Ce travail vient du fait qu'elle a été bien étudiée. Et quand on a bien étudié, c'est peut-être le travail qui va vous chercher. Alors quand les gens disent « Ah, on ne trouve pas du travail », parce qu'au départ, comme je l'avais dit tout à l'heure, les gens n'étudient pas bien. Il faut très bien étudier. Et si vous avez bien étudié, vous allez pousser, parce que ça va vous ouvrir l'esprit, et vous comprendrez que aller plus loin avec les études, c'est très important pour la vie d'aujourd'hui. Sinon, comment est-ce que vous allez entrer dans les grandes sphères de la République?
Et vous avez insisté sur les STEM, hein, les sciences, technologies,
sciences, technologie, ingénierie, mathématiques. C'est très important pour les filles et les garçons aujourd'hui. Les filles, faites ça. On va mettre des politiques de bourse, ainsi de suite, pour que les filles soient des ingénieurs, des mathématiciens, des biologistes, des gens qui vont permettre à notre société de se développer. Il ne faut pas rentrer toujours dans les littératures. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein. Je ne dis pas que c'est mal. Mmh. Hein, il ne faut pas rentrer. Moi, j'ai fait les sciences de l'information et de la communication, mais pour me permettre de sortir du lot, je suis allée très loin dans les études. Hein, très, très loin. Donc, il y a aussi ça. Alors, ça me permet, par exemple, de ne pas avoir de complexe vis-à-vis de mes collègues hommes.
Et en passant, professeur Baïdila, c'est elle qui m'a enseigné le journalisme. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle?
Vous comprenez? C'est très, très important. Même si vous n'avez pas de mari aujourd'hui comme moi, mais je suis à l'aise, non? Je suis très à l'aise.
Merci, professeur. Madame Anne-Sophie, on va terminer avec vous. Alors, comment faire de l'éducation un levier de développement et d'autonomisation de la femme? En quelques secondes.
Vous pouvez juste répéter la question.
Alors, comment faire de l'éducation un levier de développement et d'autonomisation pour la femme?
Oui, eh ben, comme je le disais tout à l'heure, hein, pour moi, c'est d'abord en faire une priorité à tous les niveaux, étatique, au niveau familial, de la communauté et à l'école. Parce qu'au-delà du simple fait d'étudier pour avoir un diplôme, l'éducation nous donne d'autres compétences. L'esprit critique, une ouverture d'esprit, ça nous apprend aussi l'autonomie, ça nous apprend à mieux se connaître, etc. Donc pour moi, je trouve qu'il est important et qu'il est bénéfique pour toute une société qu'on fasse de l'éducation une priorité et aussi que d'autres secteurs s'y mettent aussi, parce que pour moi, c'est quelque chose de transversal. On a parlé des infrastructures, mais il y a également tout ce qui a trait, par exemple, au cognitif, hein, qui est mon domaine. Donc, il faudrait mettre toutes ces choses-là ensemble pour que l'éducation soit optimale dans le pays.
Merci beaucoup, Madame Anne-Sophie Nzouzi. Merci de l'applaudir, de l'encourager par vos applaudissements. Elle est neuropraticienne et fondatrice de l'initiative pédagogique Anith Method. Et elle est également vice-présidente de la Chambre de commerce nationale et de l'économie de la RDC. Nous disons également merci à Madame Espérance Baïdi, la professeure en sciences et l'information et de la communication. Merci de les encourager par vos applaudissements. Est-ce qu'on peut applaudir très 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 fort? Merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à cette émission à l'occasion du mois de la femme. Merci beaucoup et à très bientôt. Voilà, nous mettons un terme à cette première partie de l'émission. Dans quelques minutes, nous allons passer à la deuxième tranche.